Alors, ce matin, on est dans Jean, et c'est pas un hasard, puisque qu'est-ce qu'on fait pendant la semaine? C'est quoi qu'on fait pendant la semaine de ce temps-ci? Alors, au cas que vous étiez sur une autre planète depuis quelques semaines, ici, dans la région, on distribue des évangiles dans toute la région de la Mauricie, dans le cadre du 375e, et on en distribue en masse. Cette semaine, le cas de la Madeleine, on a au moins 27 000 à distribuer. Alors, ils ne chôment pas. Et Trois-Rivières-Ouest, après ça, en a quelques milliers. La Rive-Sud en a un bon 19 000. Trois-Rivières, nous ici, l'Église, on en a 37 000. Alors, on a de quoi s'occuper et on en distribue des évangiles. Et quoi de mieux dans ce temps de distribution des évangiles que de parler de l'Évangile de Jean, hein? Alors, lors des concerts qu'on va avoir au Festival de l'Espoir, les prédications seront axées sur l'Évangile de Jean et son message d'amour et de vie éternelle, de pardon que Jésus donne à travers la peau de Jean. Et aussi, lors de mes prédications au cours des prochains mois, je vais utiliser l'Évangile de Jean pour justement maximiser notre appréciation du message de ce livre avec des histoires extraordinaires, des histoires renversantes. Et Jean a une approche différente des autres évangiles. Une histoire, un miracle, et là, tout à coup, on a un grand chapitre qui, le reste du chapitre, utilise cette image-là pour enseigner, que ce soit le pain de vie, que ce soit l'eau de vie, que ce soit la lumière du monde dans le chapitre 8, ou aujourd'hui la lumière du monde aussi dans le chapitre 9. Le Seigneur utilise ces images et va enseigner sur lui-même pour les gens qui sont perdus, avec tellement d'applications pour ceux qui ont placé leur foi en lui dans le quotidien. Qu'est-ce que c'est de vivre avec Jésus comme pain de vie, comme eau de vie, comme lumière du monde, comme la résurrection et la vie, etc., comme bon berger et tout ce que vous voudrez dans le reste du livre. Je vous encourage à le lire aussi, puisqu'on le distribue, à vous familiariser. Il y a tellement des beaux textes pour partager notre foi, des versets qui ont certainement touché votre cœur, fait vibrer votre âme à des moments spéciaux et que vous serez en train d'utiliser ces versets dans votre évangélisation. Et aussi que vous avez votre bracelet. Hein? Combien leur bracelet? Oh boy! Alors, juste pour vous mettre au courant, pour ceux qui n'étaient pas ici dans les dernières semaines, fort probablement, ça, c'est pour le Festival de l'Espoir. Et à chaque fois que vous en prenez un, vous êtes en train de commanditer quelqu'un de la région qui ne connaît pas le Seigneur pour qu'il puisse y aller gratuitement, sur ton bras. C'est bon, ça? Hein? Parce qu'on ne veut pas qu'il paye pour l'Évangile, qu'il l'entende. On veut qu'il le reçoive gratuitement. Fait que, à chaque fois que tu en prends un, tu dis « moi, je vais être là » et tu dis « moi, je vais commanditer pour que quelqu'un puisse y être gratuitement ». C'est pas merveilleux, ça? Hein? Et quand vous allez vous promener, on va savoir que vous êtes quelqu'un qui avait placé votre foi en Jésus-Christ. Alors, ça vaut la peine, c'est important qu'on ait tout ça, c'est une manière de commanditer la venue en masse. Et par la foi, vous le faites en achetant ce bracelet-là, dire « je crois que quelqu'un va venir et je veux qu'il vienne gratuitement entendre l'Évangile de Jésus-Christ lors de ses concerts, que ce soit à travers les chants, à travers les prédicateurs, à travers les services et l'amour que les gens vont donner à travers cet événement-là. » C'est bien important, continuez à faire cela. On est dans l'Évangile de Jean. Et j'aimerais vous lire, au cas où vous ne le savez pas, le but de l'Évangile de Jean qui se trouve, gardez votre doigt dans le chapitre 9, allez dans le chapitre 20, les deux derniers versets. C'est important quand on lit Jean, et dans n'importe quel évangile, de comprendre la perspective et le but de l'auteur, pour nous aider à savoir pourquoi il a choisi les histoires qu'il a choisies, c'est quoi son but. Et l'Évangile de Jean a un but très, très clair, il le dit en deux versets à la fin du livre, et ça c'est des versets à connaître. Alors, notez-le dans votre bulletin si vous prenez des notes sur le message ce matin. Chapitre 20, versets 30 et 31. Et je lis ici dans le français courant. « Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. » Alors, chacune des histoires, Jean va leur raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu de Jésus, et à chaque fois, raconter dedans comment tu viens à avoir l'assurance de la vie éternelle. Tu dois croire qui Jésus est, il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Tu dois placer ta foi en lui, et lorsque tu fais cela, tu as quoi? La vie éternelle. Et ces trois choses reviennent à chaque chapitre. Tous les chapitres, ces trois choses reviennent. Qu'il est une preuve qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Une invitation à croire, à placer ta foi complètement dans ce que Jésus-Christ a fait, qui il est, etc. Et lorsque tu as fait cela, tu as une certitude, celle d'être avec lui. Et cette certitude-là n'est pas pour la mort. Et à partir du moment que tu crois, tu as la vie éternelle aujourd'hui alors que tu crois. Tu l'as maintenant. Pas quand tu vas mourir. Tu l'as déjà maintenant. Jésus l'a promis qu'elle est à toi, cette vie éternelle, par le pardon de tes péchés, en la foi en Jésus-Christ. Maintenant. Et chaque chapitre le raconte. C'est différent comme approche des autres évangiles, dont il y a beaucoup d'histoires, du chevauchement. C'est une autre approche. Matthieu lui veut montrer qu'il est le roi, le Messie, le descendant de David. Et chaque évangile a un peu une approche différente selon la clientèle qu'il vise. Des Grecs, des Juifs, des Romains, etc. Et Jean, lui, sa clientèle, c'est qui? Le monde. Il le dit tellement souvent. Il est la lumière du monde. Il est venu dans ce monde pour éclairer les gens des ténèbres dans lesquelles ils étaient. Ce mot revient continuellement. Alors maintenant qu'on comprend pourquoi il a écrit ce livre, bien, retournez dans le chapitre 9. Et je vais juste vous mettre un petit diaporama qui est là. Je veux que vous regardiez bien comme il faut ce qui apparaît à l'écran. Vous avez une liste des 8 miracles qu'on retrouve dans ce livre, outre la section du chapitre 12 à 20, qui est toute la dernière semaine. La moitié du livre de Jean, vous savez, c'est la dernière semaine, à partir de la dernière Pâque, la semaine de la dernière Pâque, en fait, jusqu'à sa mort et résurrection. Chapitre 21, c'est sa résurrection et ce qui se passe après. Alors, la moitié du livre, c'est ça. Mais à l'intérieur de cela, il y a des miracles, mais à l'extérieur de ça, il y a 8 miracles qui ont été choisis. Jean a choisi 8 miracles spécifiques. Il avait une raison derrière sa tête, pourquoi il choisissait ceux-ci et non peut-être tous les autres que les autres évangiles racontent. L'aveugle-né qu'on va lire, c'est le seul endroit, on ne le retrouve pas dans les autres évangiles. La femme adultère, on ne retrouve pas cette histoire dans d'autres évangiles. Ni le paralytique du chapitre 5. Il prend des histoires qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles et il les raconte avec un but spécifique, nous montrer qu'il est le Messie. Et ces miracles sont puissants, ils sont hors de doute. Ce ne sont pas de la charlatanerie. Je ne sais pas si je le dis comme faux, mais ce n'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Rien de ça. Il n'y a pas des petits mal d'oreilles. Il n'y a pas un petit mal de ventre. Il n'y a pas une soirée miracle où Jésus a invité la ville. Venez chercher votre miracle. Rien de ça. Rien de ça. Tout ce qu'il y avait, c'est Jésus qui, par grâce, venait éclairer des gens qui avaient besoin de voir la lumière et qui ont cru. Et dont Jésus a miraculé leur vie. Premièrement, pas par un miracle, mais par une vie transformée. Par une vie qui est passée de des ténèbres à la vie. Quelqu'un qui a cru et dont la vie était transformée et parfois marquée aussi d'un miracle de la main de Dieu. Et dans le chapitre 8, chapitre 9 qu'on va regarder ce matin, bien c'est ce miracle de l'aveugle-né qui a été guéri. Et pour nous en faire la lecture, je vais inviter Chantal Bilodeau, le gendre, à s'approcher pour en faire la lecture. Je vous invite à vous lever, à prendre votre Bible, on va lire les premiers 17 versets. Et on va lire la parole de Dieu. Levons-nous par respect et que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole.
Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, « Va te laver à Siloé. » J'y suis allé, je me suis lavé. Et je recouvre la vue. » Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, «
Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. »
Prions ensemble. Père Céleste, on veut te remercier pour la lecture de ta parole. Ce que nous venons de lire, Seigneur, ce n'est pas une simple histoire racontée, une belle histoire, c'est la parole de Dieu. Alors, Seigneur, je te demande de bénir cette lecture, qu'elle parle à nos cœurs, que ce matin, chacun de nous puisse partir avec une parole de Dieu que tu nous as donnée personnellement sur un besoin, un encouragement, peut-être pincer un endroit qui doit être éveillé. Seigneur, parle à nos cœurs selon notre besoin individuellement ce matin. Seul le Dieu Tout-Puissant peut toucher individuellement chaque cœur dans cette assemblée. Et tu es le Dieu vivant qui peut faire cela et qui a fait ce miracle par Jésus-Christ. Nous le croyons et nous te le demandons, Seigneur, ce matin. Bénis cette lecture, parle à nos cœurs et sois glorifié par tout ce qui sera dit ce matin, que ça puisse venir par ton esprit. Amen. Merci beaucoup, Chantal. Vous pouvez vous asseoir. J'ai demandé à Chantal d'en faire la lecture puisqu'elle fait tellement une belle lecture qui permet d'apprécier davantage le texte que les bégayements et les hésitations de Joël Lapierre, qui est parfois dyslexique. Alors, ça aide pour recevoir la lecture plus agréablement. Merci, Chantal. Bien, toute une histoire ce matin, et j'aimerais comparer cette histoire, ou du moins essayer de nous aider à apprécier l'éclaircissement que vit cet homme et ce qu'il peut vivre par l'expérience qui nous est racontée d'une femme qui a vécu des choses similaires, même s'ils sont différents. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom de Madame Helen Keller? Ça dit quelque chose? Ah, c'est bon. Quelques-uns qui ont été dans des lectures cultivées d'une grande dame qui a affecté ce dernier siècle de bien des manières. Madame Keller est née en 1880. Elle est née en bonne santé, mais à l'âge de 19 mois, elle a été atteinte, je crois, de scarlatine. Et ce qui a fait qu'elle est devenue sourde, muette et aveugle. Une combinaison difficile en 1882, à l'âge de ses 19 mois. Et cette femme se retrouve aujourd'hui comme une des grandes femmes du 20e siècle. Des années 1900, qui a fait des choses incroyables et qui a marqué son siècle. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ça et sa réussite? Et elle nous raconte le moment spécial où tout a changé dans sa vie. Et je ne vous raconterai pas sa profession de foi ou sa conversion, je n'ai rien de cela, je ne sais pas du tout si elle était une chrétienne. Mais elle raconte l'éclaircissement qu'elle a vécu, une transformation dans sa vie entre le jour et la nuit, lorsqu'elle a été aidée par quelqu'un qui s'appelait Anne Sullivan. Et je vous raconte ce qu'elle dit. Et ça, c'est ses paroles que j'ai traduites en français. « Avez-vous jamais été sur la mer dans un brouillard dense, épais? Quand il semble que la noirceur, une noirceur blanche, fait de vous un prisonnier, une prisonnière, ainsi que le bateau dans lequel vous êtes, tension et anxiété, tentonnant vers la plage avec une sonde ou une ligne pour sonder le fond, et vous attendez avec le battement de cœur que vous entendez à chaque fois. Qu'est-ce qui va arriver? J'étais ce bateau qui dérivait dans un épais brouillard avant mon éducation qu'elle commence. Seulement, j'étais sans boussole et sans sonde. Je n'avais aucune manière de connaître la proximité du port où j'allais. La lumière, donnez-moi de la lumière, était le cri de mon âme, et la lumière de l'amour brilla sur moi à cet instant même. Je sentis des pas qui approchaient, puisqu'elle ne pouvait pas entendre, alors elle ressentait les pas qui avançaient dans sa chambre. J'étendis la main, comme je supposais que c'était ma mère. Quelqu'un la prit, et je fus attrapé, et tenu près dans les bras de celle qui était venue pour me révéler toute chose. Et plus que toute autre, m'aimer. C'est l'expérience qu'elle décrit lorsqu'elle avait 6 ans, près de 7 ans, le 3 mars 1887, lorsque Anne Sullivan, cette professeure, est rentrée dans sa vie et l'a rencontré pour la première fois. Et dans cette première journée, il lui a montré déjà des choses pour l'aider à apprendre à communiquer avec le monde extérieur, pour lequel elle n'avait aucune notion et pour lequel ses parents étaient complètement désemparés. Ce n'était pas la conversion, évidemment, mais elle était dans la noirceur et il s'est passé quelque chose. Quelqu'un est venu. Cet aveugle-né avait 38 ans dans Jean chapitre 9 et vécu une expérience similaire, mais celle-ci pour la vie éternelle. Depuis longtemps, il était assis dans les rues, négligé. Il faisait partie de ceux qui étaient négligés, particulièrement d'une fête comme il vivait à ce moment-ci, puisque la fête nous est décrite comme la fête des cabanes dans le chapitre 7, et cette fête va jusqu'au chapitre 10. Toutes les histoires qui se passent dans la fête des cabanes, et ce qu'on appelle la fête des tabernacles, où ce qu'il vivait dans des tentes et qui se passait pendant une semaine de temps. Les gens étaient préoccupés, évidemment, ils se trouvaient parmi ces négligés, ces gens depuis des années qui mendiaient, qui n'avaient aucune notion d'avoir vu la Méditerranée et ses vagues déferler sur ses plages, qui n'avait aucune notion de comment décrire le temple magnifique dans la ville où il était, qui n'avait jamais vu l'eau de cette citerne où il était tout près, qui n'avait jamais vu la végétation magnifique de la Palestine. Imaginez, Jésus vient et là, tout à coup, tout change. C'est ce qu'a vécu cet homme. J'aimerais vous montrer quelques photos de cette femme, Helen Keller, avec son institutrice. Et pourquoi je vous le montre, ce n'est pas juste pour vous présenter cette histoire, c'est parce qu'il y a un parallèle intéressant que je vais répéter, et aussi montrer comment sa vie a été changée après ça, et de grandes choses ont été faites dans sa vie après cet éclaircissement. Tout comme aussi le Seigneur, lorsqu'il éclaire quelqu'un, de grandes choses se passent dans sa vie et ont un impact autour d'eux, sans fin, selon la foi et les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Prochaine diapo. Vous voyez cette grande dame qui a vécu jusqu'en 68. Et aux États-Unis, vous savez qu'ils sortent depuis 10 ans des 25 sous à toutes les années de chacun des différents États. Et celui d'Alabama, où elle est née, ont choisi de Mme Keller comme représenter l'État de l'Alabama. C'est spécial, hein? Une femme qui a marqué au niveau littérature et bien d'autres domaines, la défense des droits de la femme, marcher pour que les femmes aient le droit de voter. Mesdames, si vous pouvez voter aujourd'hui, elle en fait partie des raisons et c'est une bonne chose. Ça devait être fait. Cette femme a eu cet impact et bien d'autres choses encore. Une grande dame et qu'on met même sur nos sous. Imaginez, avec la reine d'Angleterre. Ça, c'est aux États-Unis, mais quand même. Prochaine diapo. On l'a mis une effigie d'elle à Washington. Prochaine diapo. Et vous la voyez avec les grands présidents. Et elle a dit, lorsqu'elle a rencontré JFK, « Je ne me rappelle même pas combien de présidents j'ai rencontrés dans ma vie. » Et elle rencontrait JFK. Alors, elle n'avait fait du chemin, la madame, lorsqu'elle est morte à l'âge de 88 ans. Prochaine diapo. L'histoire qu'on a devant nous ce matin est très simple. Et je vous donne le plan, après qu'on va juste suivre dans la Bible. On a l'introduction où ce qu'on donne l'histoire simple de la situation et du miracle dans les versets 1 à 7. Et on voit sa situation, le miracle. Après ça, on a le corps du récit, où ce qu'on voit des questions continuellement, et j'ai appelé ça les interrogatoires incrédules. Et il va en passer à travers, on va voir quatre interrogatoires dans ces versets, où ce qu'on voit premièrement, les gens qui l'entourent, ses voisins qui l'interrogent, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui a fait ça, comment ça, puis comment. Et après ça, les pharisiens. Après ça, les pharisiens interrogent ses parents. Puis après ça, les pharisiens le réinterrogent encore. Et à la fin, le monsieur, il y a des petites choses à leur dire sur le paquet d'interrogatoires pour dire, écoutez, est-ce que vous comprenez, là? Je me répète, là, mais à un moment donné, là. Et tout au long de ce processus, notre ami l'aveugle-né chemine. Parce que si vous remarquez, il n'est pas allé voir Jésus dire, « Je crois en toi, Messie, s'il vous plaît, guéris-moi. » Non, aucune demande. Même après avoir été guéri, vous remarquez, il n'est pas encore certain de l'identité. Il dit, c'est qui? Un prophète. Il a été guéri. Est-ce qu'un miracle va apporter nécessairement le salut dans la vie d'un homme? Non. Le miracle n'est pas garant du tout du miracle intérieur. Du tout. Et Jésus le sait. Et parfois, des gens demandent à Jésus un miracle par la foi en lui, et d'autres, il approche, comme dans le cas du chapitre 5 aussi, avec le paralytique qui était près de l'eau, qui lui cherchait un autre moyen d'être sauvé de sa situation. Jésus va le voir. Il ne le cherchait pas. Jésus le cherchait. il allait le voir, même sans foi. Et finalement, on le voit progresser à travers les interrogatoires où ce qu'il répète tranquillement le récit, simplement, il n'y a pas d'exagération, le poisson, il n'a pas les yeux gros de même, il n'y a rien d'exagéré, c'est simple, il répète les choses simples, ça dérange, et à force qu'il les raconte, on le voit devenir de plus en plus convaincu jusqu'à sa rencontre avec Jésus, à la toute fin qu'on va lire tantôt. Quel cheminement dans la vie de cet homme avec cette histoire spéciale. Et à travers cela, vous avez remarqué déjà dans les versets qu'on a lus, mais dans ceux qui suivent, beaucoup de questions. En fait, il y en a 14 questions, je les ai comptées, dont 3 qui sont doubles, ou qui demandent 2 questions à la fois dans sa question. Et ces questions nous font ressortir des choses assez intéressantes dans le récit. Nous font ressortir les leçons, les points qu'il faut allumer dessus, les détails qui donnent tout le sens de cette histoire. Et on va s'y attarder. Et vous pourrez les noter dans une lecture que vous en ferez, j'espère, cet après-midi, en espérant que vous aurez été allumés par cette histoire et voudrez aller plus loin. On peut enlever le diapo et dans les derniers versets, la conclusion, on a le résultat qu'on va regarder à la toute fin. Alors, je vous ai déjà mentionné qu'on est dans la fête des tabernacles, une fête dans laquelle Jésus est en train d'enseigner bien des choses, et entre autres dans le chapitre précédent où Jésus a enseigné qu'il était la lumière du monde, et c'est la même journée, on croit que ça se passe. Il y a une suite qui se passe ici, on voit les mots qui sont choisis pour introduire les chapitres, on voit qu'il y a une suite d'événements dans la même période de temps. On se trouve entre la 3e et 4e Pâque dans la vie de Jésus. Jésus a environ 33 ans, la même âge que j'ai. J'espère que ça annonce rien de similaire. Je ne suis pas dans un endroit très à risque comme Chris Leggett, ici au Québec, pour mourir pour ma foi. Mais cet homme va faire une rencontre spéciale maintenant. Dans le moment de la fête des tabernacles. Il n'oubliera plus jamais cette journée-là. Ça va être spécial. Et regardez la première question. C'est quoi la première question du texte? Quelqu'un peut me le dire? Vous allez le trouver dans votre Bible. Quelle est la première question?
Qui a péché?
C'est une drôle de question, vous ne trouvez pas? Moi, c'est rare que quand je vois quelqu'un qui a un handicap quelconque, je regarde ma femme, je dis, « Hey, maman, c'est qui a péché? » Ah, non, on ne se pose pas ce genre de questions-là. Son père ou c'est lui ou elle, tu sais, elle le mérite-tu? On ne se pose pas ce genre de questions-là. C'est une question théologique. Mais il faut comprendre le contexte. À cette époque, on enseignait, l'homme étant pécheur dès sa naissance, qu'il y avait à l'intérieur du ventre de la mer un combat qui se menait entre le bien et le mal. Et allait se décider là si cet enfant allait aller vers le bien ou vers le mal. Une sorte de yin-yang, c'était un petit peu la confusion que se passait à cette époque-là avec les années, l'éloignement des enseignements de la parole de Dieu. Et ils étaient arrivés avec ces choses-là. Et là, ils croyaient que l'enfant qui donnait un coup de pied, et là, je ne sais pas combien d'enfants n'ont pas donné de coup de pied dans le ventre de leur mère, mais en tout cas, c'est un autre sujet, manifestait finalement, il donnait un coup de pied, un coup de violence, c'est un pécheur. Alors, on aurait pu leur dire, hein? Et effectivement, 2000 ans plus tard, on a encore des coups de pied dans le ventre, les femmes, lorsqu'ils portent leur enfant, c'est rare, ils espèrent avoir des coups de pied, comme ça donne un signe qu'il est vivant. Hein? Pas nécessairement qu'il est pécheur. Même si on est pécheur, oui. Et eux croyaient que s'il avait cela, c'était probablement parce qu'il avait été pécheur dans le ventre de sa mère et Dieu l'avait puni. Ou peut-être aussi, c'est simplement ses parents. Et que là, ici, Dieu maudit la malédiction de ses parents tombe sur lui. Et dans le ventre maternel, ce qui est arrivé, c'est qu'il a perdu la vision. Donc, c'est-tu lui qui a péché ou c'est ses parents? Et effectivement, dans la loi, on disait que le Seigneur pouvait maudire jusqu'à la deuxième, troisième génération, mais qu'il est béni jusqu'à... Alors donc, le Seigneur aime davantage bénir que de juger, n'est-ce pas? Et brise les jugements lorsque quelqu'un se tourne vers la grâce de Dieu et demande pardon. Alors, sous ces conceptions-là que les rabbins ont amenées à travers les siècles, on va en reparler dans quelques instants, ils se posent la question, c'est qui a péché? C'est lui ou sa mère? Et là, on peut comprendre un peu plus la question. Hein? Pourquoi ils posent ce genre de questions? Et Jésus répond de manière très simple. C'est quoi? C'est pourquoi? Ah, c'est pour faire l'œuvre de Dieu, en fait. Et on regarde plus tard, on voit que l'expression « l'œuvre de Dieu » parle ici d'amener quelqu'un à croire. C'est ça l'œuvre de Dieu. D'amener quelqu'un à croire, c'est l'œuvre de Dieu. On le remarque dans l'Évangile selon Jean. Et c'est intéressant, lorsqu'on regarde l'histoire, par exemple, dans le chapitre 11, verset 4, de Lazare, on remarque ces mêmes paroles qui reviennent. Lazare est-ce qu'il est mort? Non, en fait, tout ça se passe pour faire sortir la gloire de Dieu. Vous savez, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont malades et que Dieu veut faire sortir sa gloire à travers eux autres. Soit par une guérison, parce que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Soit par le fait qu'il fait de grandes choses à travers quelqu'un qui est si fragilisé dans son corps. Une personne qui avance avec dignité, avec la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur veut se glorifier à travers des malades encore aujourd'hui. Et la maladie n'est pas une malédiction. En fait, la maladie, la vraie cause, c'est quoi? C'est la chute de l'homme. C'est une conséquence de notre péché qui, de génération en génération, devient de plus en plus fragilisé. Notre choix de mal gérer la planète Terre nous amène à avoir toutes sortes de carences, de problèmes. Et le fait qu'il y ait des gens dans le monde qui manquent de nourriture, est-ce que c'est la faute de Dieu? Pas du tout. Il y a assez de nourriture sur la Terre pour nourrir tout le monde. Mais on est égoïste. On ne partage pas nos biens. Et le cœur humain, même lorsqu'il y a de la nourriture, des gens contrôlent, etc. Et c'est la méchanceté humaine, c'est le cœur de l'homme qui amène ses malheurs sur nous. Mais, à travers cela, même si le péché apporte la maladie, il y a des maladies qui sont là et que le Seigneur va utiliser pour sa gloire. Et malgré la déchéance humaine, le Seigneur, dans les ténèbres, fait luire la lumière. Il n'est pas limité par les méchancetés humaines, il n'est pas limité par les choses qu'on sent, qu'on soit croyant ou non, le Seigneur va faire ce qu'il a à faire, coûte que coûte, et faire briller la lumière, même au prix d'une vie. Vous savez, si Chris Leggett est décédé, c'est parce qu'il croyait que Dieu l'avait appelé à apporter la lumière aux musulmans, un des peuples les plus difficiles à évangéliser. Et si nous vivons une tristesse, une admiration, les deux, pour la mort de cet homme, il n'est pas le seul. Chaque jour, des gens meurent pour leur foi. Encore aujourd'hui, comme missionnaire, que ce soit comme croyant, en Iran, dans des pays musulmans à travers le monde entier, communistes, des gens meurent encore aujourd'hui, vous savez, à pourrir en prison pour leur foi. C'est tellement loin de nous qu'on n'y pense pas. Ça existe. Et le Seigneur nous le rappelle aujourd'hui par ce modèle de Chris, un héros de la foi. Alors, Jésus répond simplement et leur confronte avec cette fausse conception. Vous n'avez pas raison du tout. Ce n'est pas le péché. Ici, un plan plus grand. Et le Seigneur va se présenter ici au verset 5 comme la lumière du monde. Et c'est une image extraordinaire auquel j'aimerais m'arrêter 5 minutes. Jésus vient de dire, dans le chapitre précédent, après avoir rencontré cette femme adultère qu'on va regarder le mois prochain, Dieu voulant, cette femme adultère qu'on voulait condamner, et Jésus dit au chapitre 8, verset 12, immédiatement après cette histoire, « Je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne sera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pourquoi Jésus utilise cette image? C'est une image puissante, on connaît le soleil et la lumière est pour nous important. On aime avoir sa chaleur, on comprend l'importance aussi de la lumière lorsqu'il fait nuit pour nous éclairer, nous montrer le chemin. Il y a toutes sortes d'images intéressantes, mais la première qu'on doit remarquer, c'est dans Ésaïe. Plusieurs textes, et je vous en donne deux à regarder, le chapitre 42, pas tout de suite, vous pourrez les regarder à la maison, chapitre 42, versets 6 et 7, ceux qui notent, et Ésaïe 60, versets 1 à 3. Il y en a plusieurs autres. Mais je vous donne juste ces deux-là pour regarder où ce qu'on déclare que le Messie à venir et le salut de Dieu est une lumière pour les nations et que le Seigneur fait briller sa lumière dans les ténèbres. Et plusieurs textes liés au fait que le Seigneur voulait utiliser Israël comme lumière, que le Messie allait venir et est la lumière et lorsque Dieu délivre, il est la lumière, ces éléments sont présentés symboliquement, régulièrement dans le livre d'Ésaïe et répétés dans le Nouveau Testament. Et Jésus est cette lumière annoncée qui luit dans les ténèbres et permet au cœur humain qui est dans les ténèbres de voir sa situation et de répondre. Parce que dans notre état pécheur, on ne le voit pas généralement. Et Jésus vient éclairer ici ces gens pour leur montrer, il nous a éclairés nous, pour nous montrer notre état de perdition. Nous montrer comment on est perdu sans lui. Nous montrer combien on ne fait que le mal en général. Et que même lorsqu'on fait des bonnes choses, on le gaspille avec des mauvaises intentions. Tellement que le cœur humain est pourri et en rébellion contre Dieu. Il nous éclaire de notre noirceur pour qu'on puisse avoir l'occasion de répondre à son appel, à l'opportunité d'être éclairé et de pouvoir maintenant marcher. Parce qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui marche dans le noir? Hein? Une des dernières fois que j'ai vu ma femme marcher dans le noir, dans les derniers mois, elle s'est cognée un orteil sur un coin de bureau. Ça vous arrive, ça? C'est pour ça qu'on a des flashlights la nuit, quand on va dans un camp, pour éviter de ramasser des racines ou voir les serpents qui se promènent, non, ou les couleuvres. On veut voir où est-ce qu'on marche, on veut voir où est-ce qu'on avance. Tout le monde veut voir ce qu'il avance. Mais la personne qui est sans lumière avance dans la vie, mais pour des choses futiles, sans savoir réellement pourquoi elle est là. Et la lumière de la vie vient montrer le chemin, donner l'opportunité d'y répondre et d'être éclairé. Et c'est ce que la parole de Dieu est utilisée dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds. » La parole de Dieu est une lampe qui éclaire notre sentier, qui nous montre où mettre le prochain pas, ce que Dieu veut de moi, de nous, ce que Dieu veut de son Église, ce que Dieu veut de l'homme et de la femme et des enfants. Il nous éclaire un pas à la fois. Il nous éclaire surtout pour connaître notre Créateur, le Sauveur, et comment remédier à notre relation brisée par notre péché. La lumière est une image extrêmement puissante et forte. Et lorsque Jésus utilise ça ici, à la fête des tabernacles, où il y avait des chandeliers dans le temple, où ce que aussi prochainement venait la fête de la dédicace, où ce qu'on a la fête de la lumière, au mois de décembre, au début décembre, où ce que là on allume les chandeliers à 9 brins lors de cette fête, la lumière est importante comme image. Et Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et lorsqu'il disait ça, le Juif moindrement aguerri de l'Ancien Testament et des prophètes savait que « Oh boy, je suis la lumière du monde ». Seulement le Messie, Dieu, pouvait dire une telle chose. Seulement le Messie, Dieu Tout-Puissant, pouvait dire une telle chose. Personne d'autre. Et après ça, Paul et Jésus aussi, et Paul est inspiré de Jésus, utilise cette image pour parler de notre vie comme croyant une fois qu'on a rencontré la lumière, comment on doit se comporter. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça fait la lumière dans la vie de quelqu'un? J'aimerais vous lire juste un passage. Il y en a plusieurs, mais je dois me limiter à certains. Dans le livre de l'Épître de Jean, le chapitre 2, et je vous lis le verset 8 à 11. Et vous pouvez écouter ces paroles, 8 à 11, pas l'Évangile, mais l'Épître de Jean, la première, chapitre 2, verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres, en harmonie avec ce que notre frère Yvon Douville nous a partagé tantôt. Je dis que je suis dans la lumière, j'haïs quelqu'un. Il dit, ça ne marche pas, là, c'est pas normal. C'est complètement incohérent. Tu ne peux pas être dans la lumière et haïr quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe là. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Donc, ça veut dire qu'on peut être dans la lumière et s'égarer de la lumière. D'être incohérent avec ce qu'on dit avoir reçu. Et aucune occasion de chute n'est en lui lorsqu'il marche dans la lumière. Parce qu'évidemment, quand tu vois, tu ne te plantes pas en avant. Hein? C'est ça, il n'y a aucune occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'il voit en avant de lui. Donc, il ne se plante pas. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Ouf! C'est assez radical, ça, hein? Ça nous fait réfléchir à propos de la dernière personne qu'on a parlé dans le dos. La dernière personne pour dire « Ah, moi, je ne suis pas capable, lui, je ne suis pas capable, elle. » Peut-être la dernière, c'était votre conjoint, votre conjointe. Il y a encore plus de murmures à celui-là, hein? Pensez-y comme faux, celui-là qui allait vous marier un jour, là. Hein? Deux pécheurs qui se marient. Pas toujours facile. Ma femme a un gros sourire en arrière. C'est pas parce qu'elle est nécessairement heureuse, parce qu'elle sait ce de quoi je parle. Elle a avec un gros sourire, là. C'est parce qu'elle sait exactement de quoi je parle. Hein? C'est pas toujours facile. Là, il dit, tu dis que tu es dans la lumière. Tu peux pas haïr. Et si je peux me permettre, ça veut dire un matin que si tu as de la misère avec quelqu'un ce matin, le Seigneur te demande d'aller le régler tout de suite. Peut-être faut que tu demandes pardon à ton conjoint, ta conjointe ce matin. Peut-être c'est à un enfant. Peut-être c'est à quelqu'un au travail. Peut-être quelqu'un qui t'a parlé dans le dos, puis tu es obligé d'aller dire, écoute, il faut que je te parle, je t'en veux, là, puis j'ai péché contre toi. Je ne sais pas c'est quoi, mais il faut être cohérent. Je suis dans la lumière, je dois marcher dans la lumière. Puis il dit, si tu marches dans la lumière, tu haïs pas, tu aimes. Et quand tu aimes, tu tombes pas. Y a-t-il une meilleure assurance que ça? Hein? Quelle meilleure assurance péché pouvez-vous trouver? On achète toutes sortes d'assurances, là. C'est une assurance péché, ici. Même David, on croit, possiblement David, dans le psaume 119, utilise une expression similaire. « Je serre ta parole contre mon cœur. » Pourquoi? « Afin de ne pas pécher contre toi. » Ça, c'est une assurance péché. Avoir la vie éternelle et après ça, se coller sur la parole de Dieu. Aimer. Et quand j'haïs, je m'éloigne. Et je tombe. Et le Seigneur nous appelle à des lumières du monde dans Matthieu chapitre 5. Vous vous rappelez de cela? Il parle du sel de la terre. Il dit, soyez la lumière du monde. Donc, le Seigneur dit, je suis la lumière et ceux que j'éclaire deviennent aussi des spots de lumière. Qui se promènent un peu partout dans le monde et qui doivent éclairer partout où ils vont. C'est la fonction de quelqu'un qui a été éclairé. Et le Seigneur est bon et gracieux. Même lorsque nous étions de petites chandelles, toutes écrasées, ramollies, avec un petit bout qui dépassait de mèche, tout petit, malgré qu'on était méprisable et petit, sans intérêt pour être allumé par lui, le Seigneur est venu nous voir. Et lorsqu'on a cru en lui, il nous a allumés. Il nous a allumés. Et non seulement il nous a allumés, mais il a allongé la mèche. Il a mis de la cire. Il a mis de la flagrance. De la couleur, comme les femmes aiment mettre dans leur maison. Hein? Une belle chandelle avec de la couleur qui sent bon là, quand la visite vient. Seigneur, il a fait ça. Au lieu de regarder et de dire, ah, une petite chandelle qui ne vaut pas la peine, je garoche ça aux poubelles, c'est plus bon, c'est ça qu'on fait nous autres. Le Seigneur nous regarde et il fait ça avec nous. C'est pas beau ça? Hein? Les femmes comprennent ce que je veux dire. Hein? Les autres, les hommes, comme moi, ah, chandelle, hein? Chandelle? Amen! Hein? Comment ça coûte ça? Ah, oh, que le Seigneur, on se confesse, Seigneur, on est gratuit des fois, là. Beaucoup de textes sur la lumière du monde, mais je ne crois pas que j'ai besoin de tout vous les lire pour que vous compreniez. On comprend ou on ne comprend pas à un moment donné. Et cette image est importante, très importante. Et la dernière question qui vient dans ce texte-là qu'on peut se poser, c'est pourquoi la salive puis la boîte? C'est une manière de le faire, j'aurais pensé peut-être autrement. Hein? Peut-être si l'autre l'avait vu, il aurait dit « Attends un petit peu avant de me mettre dans la face. » J'ai déjà vu un guérisseur, il faisait pas ça comme ça, lui. Hein? Heureusement, il était aveugle, il connaissait pas mieux. Le Seigneur crache, met de la boue, puis là, il met ça à ses yeux. Puis là, en plus, c'était pas assez, il fallait qu'il se rince. Et là, tout à coup, imaginez pour la première fois de sa vie, il se rince la face. Je ne sais pas s'il est rentré au complet dedans ou quoi, là, tu sais. Puis là, 38 ans, il n'a jamais vu. Et là, il voit. C'est incroyable, hein? Il voit. Tout à coup, il voit. Et on va comprendre pourquoi la boue et la salive dans quelques instants. Mais j'aimerais juste vous partager ce que Mme Keller mentionne à propos de la première fois qu'elle a compris, qu'elle a été illuminée pour pouvoir lire ou comprendre une communication, son sentiment qu'elle a vécu. Mme Keller dit ceci, « Nous avons marché un chemin jusqu'à une maison qui couvrait un puits ou une source, attirée par la fragrance du chèvrefeuille qui la couvrait. Quelqu'un puisait de l'eau et mon professeur plaça ma main sous le bec. Alors que jaillissait de l'eau sur ma main, elle épela dans l'autre main le mot « eau », en anglais « water ». Initialement, lentement et puis rapidement. Je me tins sans bouger. Toute mon attention était fixée sur la motion de ses doigts sur ma main. Soudainement, je sentis une conscience brumeuse de quelque chose d'oublié. L'excitation d'une pensée oubliée. Et d'une manière ou d'une autre, le mystère du langage me fut révélé. Je savais alors que « water », W-A-T-E-R, voulait dire « eau », quelque chose de merveilleusement rafraîchissant qui coulait sur ma main. Ce mot vivant éveilla mon âme, lui donna de la lumière, de l'espoir, de la joie, de la liberté. Il y avait des obstacles encore, il est vrai, mais des obstacles qui, en son temps, seraient balayés. Ce n'est pas parce que la lumière est entrée dans la vie de cet homme et la lumière est entrée dans nos vies que tout à coup, il n'y a pas d'obstacle. Mais quel sentiment! Est-ce que vous vous rappelez ce moment où ce que vous avez compris? Vous vous rappelez ce moment où vous aviez de l'anxiété avant, il y avait des troubles, il y avait peut-être de la dépression, le suicide qui était dans votre pensée, le désespoir de ne pas savoir quoi faire, et de la colère. Et là, vous avez compris. Vous avez compris. On n'oublie pas ce jour-là. Hein? J'ai accepté le Seigneur lorsque j'étais un enfant. Et très jeune, je savais que j'étais un pécheur. Et un soir, j'ai décidé de prier sur mon lit. J'étais tout seul. J'avais entendu mes parents témoigner à quelqu'un, les voisins. Alors, sur mon lit, j'ai prié seul dans ma chambre. Je me souviens encore aujourd'hui, 1980, l'été. J'étais très jeune, mais j'avais compris l'essentiel. Mais à travers ma vie, je devais progresser dans ma foi. Le Seigneur m'a montré des choses. J'ai vécu, pas une crise d'adolescence, mais une crise d'enfance. Moi, je n'étais pas sorti de l'école en secondaire. J'étais sorti de l'école en première, deuxième puis troisième. Ma mère a fait de l'éducation à la maison et le Seigneur a utilisé toutes sortes de choses pour m'éclairer. Et alors, j'ai 17 ans, j'ai décidé de quitter le foyer pour étudier la parole de Dieu. Je savais que ma foi était faible, je ne connaissais pas assez la parole de Dieu. Et même à l'école biblique, je vivais des problèmes d'attitude, de contrôle avec l'autorité. Mais je me rappelle du jour où j'ai commencé par la foi, ça a pris des mois, j'étais bien têtu. Le Seigneur m'a convaincu, ce n'était pas l'école biblique, ce n'était pas le fait que j'étais là-bas, il m'a convaincu que je devais prendre du temps pour lire la parole chaque jour. Et ça faisait partie d'un essentiel de ma foi pour grandir et connaître mon Dieu. Et c'était la deuxième étape de mon éclaircissement pour devenir adulte dans ma foi. Vous savez, quand on décide de croire en Jésus comme enfant, c'est les années qui démontrent si cette foi germe et va éclore dans une foi adulte ou si elle va s'éteindre avec les réalités de la vie adulte et s'étouffer. Et c'est à ce moment-là que s'est passé un éclaircissement. J'ai commencé à lire la Bible. Et tout ce que Joël était, voulait faire, a basculé. Et là, il s'est passé un éclaircissement dans ma vie, un changement d'attitude, un changement d'aspiration, un changement de but à tous les niveaux. J'avais changé. Vous vous rappelez de ce moment-là? Et pourtant, avec les années des fois, et tous les divertissements, tout ça, on oublie. Et il faut s'en rappeler. Ce jour où j'ai été éclairé et tout a changé. J'ai vu, j'ai été excité, j'ai trouvé de la joie, de la paix. Tout a changé, ce qui était avant et maintenant. Voilà ce qu'il a vécu. Voilà ce qu'il a vécu. Et tout au long des questionnements qui vont suivre, il va progresser, progresser. Et les gens qui disent voir vont s'aveugler, s'aveugler et s'aveugler. Et c'est l'ironie de toute cette histoire. Parce que tout au long, lui est en train de s'éclaircir, les yeux lui ont été ouverts, mais il devait encore comprendre qu'il était Christ. Il est en train de le découvrir tranquillement, pendant qu'il raconte son histoire, et tranquillement, il s'approche de Dieu en racontant son histoire d'une voix à l'autre. Il disait, hey, j'ai été guéri, il a mis de la boue, il a été fait, là, c'est qui? Là, hey, c'est pas n'importe qui. Puis, là, ils disent que c'est un pécheur, parce qu'il a fait ça le jour du sabbat. Mais là, un pécheur, Dieu ne l'écoute pas, il ne peut pas faire ça, ça n'a pas d'allure. Et là, il raisonne tranquillement. Et les autres, en raisonnant eux autres, ils s'endurcissent. Ceux qui voyaient physiquement, spirituellement, ne voient pas. Et soit qu'ils vont être éclairés, ou soit qu'ils refusent, ils se virent de bord, puis veulent continuer à patauger dans leurs ténèbres. dans les ténèbres de la religiosité, de la rigueur religieuse. Parce que vous savez, Jésus a choisi délibérément de faire ça un jour de sabbat. Il a choisi délibérément aussi de prendre la salive et prendre la boue, parce que c'est un travail condamné, donc on ne devait pas faire le jour du sabbat. Et on avait ajouté tellement de règles au jour du sabbat que tu ne veux même pas réallumer une chandelle qui s'était éteinte. Tu ne peux pas mettre des sandales qui avaient été mis des clous dedans parce que ça avait demandé du travail. Et là, on avait ajouté un paquet de conneries religieuses à la loi de Dieu. Ça faisait 14 ans que la loi avait été donnée, 1400 ans que la loi avait été donnée. Et là, on avait ajouté. Et Jésus fait par exprès un jour de sabbat, parce que nulle part le Seigneur avait condamné, tout au contraire, la bienveillance le jour du sabbat. Jamais. Mais ils avaient perdu la bienveillance le jour du sabbat par leurs règles ajoutées et ajoutées et ajoutées. Et on peut comprendre, nous autres, les Québécois, les règles ajoutées. Parce qu'on a été dans le catholicisme. Hein? Puis catholicisme, au début, c'était pas le catholicisme d'aujourd'hui. Au début, c'était la foi chrétienne. Même année, on a mis un pape. On a ajouté des choses. La confesse. On a ajouté des choses. Et qu'est-ce qui est arrivé 1500 ans après la mort de Jésus-Christ? On s'est rendu en l'an 1500 à la réforme. Et des gens ont dit, ben là, cette église-là, c'est pas ce qu'on retrouve là. Et ceux qui ont prêché contre comme Jésus, les Luther, les Calvin, et ces Zwingli, et Farel, et tous ces gens de l'Europe qui ont prêché la réforme, on a voulu les tuer, et on en a tué en masse. Tout comme ils ont voulu tuer Jésus, pour réformer la rigueur des ténèbres religieux qui avaient perdu toute leur vie. Toute substance de vie éternelle était partie parce qu'on avait ajouté. Et tout à coup, la loi avait été tellement ajoutée qu'on n'obéissait plus à la loi. Le catholicisme disait être la foi chrétienne, on l'avait perdue. Et est venue la réforme. Et vous savez quoi? Dans certaines églises protestantes aujourd'hui, se fait la même chose, tranquillement avec les années, ils ajoutent des affaires. Et là, on est rendu avec des gens qui désobéissent à la parole de Dieu de manière flagrante. Que ce soit en fait le mariage homosexuel, ou que ce soit l'ordination de toutes sortes de gens, pour toutes sortes de raisons, etc., on ne respecte plus la parole de Dieu. Et dans certains milieux protestants, c'est devenu la même chose. L'incrédulité totale. Mais voici le cœur, au verset 35. Et lisez-le avec moi. Regardez bien dans votre Bible. On va lire à partir du verset 30, la réponse, après trois interrogatoires, la réponse de cet homme. L'homme leur répondit, voilà. Excusez-moi, j'ai... Oui. Voilà, bien que ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il vient et pourtant il a guéri mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait guéri les yeux d'une personne née aveugle. Jamais c'est arrivé dans tout le monde. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Regardez l'aveuglement spirituel, qu'est-ce qu'ils disent? Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, puis tu viens nous enseigner. Vous voyez la conception du verset 2, pourquoi c'est important le verset 2? Il croyait qu'il avait péché dans le ventre de sa mère. Alors, tu étais né, même dans le ventre de ta mère, pécheur, puis toi, tu vas venir nous enseigner, mais pour qui tu te prends? Le mépris, le dédain, il le trouvait dégueulasse, littéralement, il le méprisait. Et là, ils le rejetèrent, le chassèrent de la synagogue. Jésus apprit qu'il avait été chassé, il se rencontra, il lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu au Fils de l'homme? » Il dit, « Dis-moi, qui c'est, maître ?» répondit l'homme, « pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois. » Il dit ça à quelqu'un qui est aveugle. « Tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, » dit l'homme. Et il se mit à genoux devant le Seigneur Jésus. Voilà la réaction naturelle de celui qui est éclairé. Il se met à genoux, il se prosterne devant le Seigneur Jésus. Preuve qu'il est Dieu aussi, parce qu'on ne se prosterne devant personne d'autre que Dieu lui-même pour l'adorer. Il se prosterne devant son Sauveur. Et Jésus dit alors, « Je suis venu dans le monde pour qu'un jugement ait lieu. » Excusez-moi. Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui se tenaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent : Sommes-nous les aveugles, nous aussi ? Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupables. Parce que vous ne voyez pas qui je suis. Vous vous condamnez vous-même à la perdition, sans solution possible, sans alternative. Et cet homme, après avoir répondu, a simplement raconté, illuminé autour de lui. Les gens ont chassé ça, ont voulu rester dans leurs ténèbres. Lui a répondu. Et après avoir en vu un miracle, après avoir débattu sur la logique de ce miracle, le résultat est celui-ci. Un homme a cru et d'autres l'ont rejeté. Le miracle ne sauve personne. Les gens ont vu Jésus ressuscité. Ils ont été témoins et ont rejeté. Ils ont voulu cacher les religieux. Les preuves de sa résurrection lorsque des gardiens sont venus leur raconter qu'un ange était venu. Où suis-je ce matin? Est-ce que je suis comme cet aveugle qui va simplement croire dans le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Ou suis-je de ceux qui s'aveuglent de plus en plus? Et je dois me poser cette question qu'ils se sont posées. Est-ce que nous sommes aveugles? Est-ce que c'est nous, les aveugles, tu es en train de dire? Et quelle question! C'est-tu moi l'aveugle? Est-ce que c'est moi l'aveugle? Et ce matin, si vous n'avez jamais répondu encore à l'amour de Dieu, je vous invite ce matin à prendre une décision éclairée et de recevoir ce matin la lumière du monde, de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, et qu'en croyant en lui, vous avez le pardon des péchés et la vie éternelle. Et que seul lui peut offrir cela. Peut-être tu as déjà fait cette décision depuis longtemps, comme plusieurs ici. Mais on doit se poser la question, est-ce que je continue de marcher dans la lumière? Est-ce que je porte les œuvres de la lumière? Et le Seigneur dit, juste avant ça, les œuvres de Dieu, c'est quoi? C'est que les gens viennent à la foi. Que je fasse des choses qui dirigent les gens à croire. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà son but, ce qu'il désire. Et lorsque je fais ça, je perpétue la lumière que Dieu a mis dans ma vie pour éclairer quelqu'un d'autre qui va éclairer quelqu'un d'autre et qui un jour vous a éclairé vous. Les 375e, ce n'est que ça pour nous. Une opportunité d'éclairer notre ville et notre région. C'est ça. Et c'est ce qui découle naturellement de la lumière. Mais parfois, il est si facile dans notre vie chrétienne de laisser la noirceur rentrer dans les coins de la maison, dans un garde-robe, à différents endroits, laisser du péché négligé. Et tranquillement, les ténèbres nous recommencent à nous envahir alors qu'on est éclairé. Est-ce que ce matin, il y a de la noirceur qui est rentrée dans ta vie par du péché, par de la négligence? Peut-être, ça fait longtemps que tu n'as pas pris la Bible pour prendre du temps pour te nourrir spirituellement. Peut-être as-tu cessé de prier. Peut-être sombré dans la dépression et que tu as besoin d'aller chercher de l'aide spirituelle pour recommencer à lire, à prier, te réunir avec des croyants. Peut-être as-tu arrêté de témoigner depuis des années? Ou peut-être ce matin, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et recevoir la lumière. Prions ensemble. Prions le Seigneur. Ô Père Céleste, cette histoire, tout comme bien des histoires dans l'Évangile de Jean, sont des histoires excitantes, stimulantes, Seigneur. Bouleversant de voir un miracle aussi incroyable. On se dit, hey, si j'avais pu être là, Seigneur, ça aurait été incroyable. Et pourtant, des gens qui ont été témoins ont été pu constater, après interrogatoire, crédible et répété, que cet homme était miraculé, ils ont décidé de retourner aux ténèbres de la rigueur religieuse plutôt que d'une relation éclairée avec le Créateur, avec Jésus-Christ, le Sauveur, de vivre une relation épanouissante plutôt que la rigueur de la noirceur de la religion. Ô Seigneur, puisses-tu éclairer ceux et celles ce matin qui n'ont pas pris de décision, peut-être c'est un enfant, un adolescent, quelqu'un qui ce matin est à l'église depuis des années, qui reporte de prendre une décision. Ô Seigneur, convainc les cœurs ce matin, le combat qui est mené à l'intérieur pour repousser encore une fois, convainc de péché, de jugement et de vérité. Et Seigneur, pour nous qui avons été éclairés, aide-nous, Seigneur, à vivre en n'oubliant jamais la lumière et le sentiment qu'on a vécu de joie, d'épanouissement, et quelque chose d'extraordinaire, une mémoire qui nous stimule, qu'on puisse en rappeler continuellement à tous les fois qu'on partage l'Évangile, à tous les fois qu'on prend la Sainte Cène pour se remémorer ce que tu as fait et ce que tu as fait dans nos vies. Et toute l'espérance que ça me donne, Seigneur, ou ce que je suis prêt à subir ici au Québec, un peu de moquerie aux portes peut-être, parce que je suis allé porter un évangile de Jean, un traité, parce que j'ai osé dire que moi je crois en Jésus qui est vraiment ressuscité, qu'il est né d'une vierge et qu'il peut sauver toute âme qui croit en lui et lui donner la vie éternelle. Oh Seigneur, que je sois ridiculisé pour ça, Seigneur, alors qu'à l'autre bout du monde, il y a le deuil parce qu'un homme, un héros de la foi est mort, pour annoncer l'Évangile à un peuple dans la noirceur, dans la rigueur religieuse, le fanatisme. Ô Seigneur, que nous ne puissions pas haïr, mais aimer comme tu as aimé, pour envoyer ton ambassadeur, Christ, pour annoncer l'Évangile. Et que la mort de cet homme puisse être encore plus puissante que la lumière alors qu'il était vivant. Que la lumière, Seigneur, parce qu'il vit encore, il est en ta présence, parce qu'il avait foi en toi, puisse continuer à éclairer cet endroit. On te prie pour Amy, de la protéger, qui est dans cette équipe, et toute l'équipe missionnaire qui est là. Seigneur, mobiliserait-les, Seigneur, fortifie-les, et qu'ils puissent être une lumière encore plus puissante, Seigneur, après ces événements qui, à l'apparence, sont si ténébreuses. Oh Seigneur, inspire-nous par ces hommes qui avancent dans la lumière avec audace. Et puissions-nous être ainsi ici à Trois-Rivières, Seigneur, audacieux, fervents, fidèles et aimants du peuple que tu veux sauver ici à Trois-Rivières, où il y a, Seigneur, je crois, des milliers d'élus qui attendent de répondre. Glorifie-toi, Seigneur, et que l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire d'amener des gens à croire, soit faite dans cette Église et par cette Église et les Églises qui professent l'Évangile dans cette région. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.